Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B. Tous les samedis à 11h, rediffusion le dimanche à 16h30.
Bonjour tout le monde, bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
Nous sommes là ensemble encore une fois pour parler de nos coups de cœur littéraires. Il y a Blaise aussi hein, qui va nous faire une chronique littéraire en fin d'émission, mais elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui en studio. Mais avec toi Sandrine, on est à fond.
Complètement, on est à fond.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, d'une autrice que j'aime beaucoup, et je précise avant tout qu'elle est rennaise. Elle a écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Peut-être que si je vous dis, évidemment, « Appelez-moi par mon prénom »,« Tous les hommes désirent naturellement savoir », et son dernier, « Satisfaction », pas « Satisfaction » des Rolling Stones. Quoi qu'on pourra l'écouter un autre jour. Si je vous dis, voilà, elle est rennaise, elle est merveilleuse, elle est absolument, son écriture est absolument délicieuse. Son prénom, c'est Nina. Et donc, il pourrait s'agir de Nina Bouraoui. Voilà, je vais parler de Nina Bouraoui et de son livre que j'aime particulièrement. Ce n'est pas une nouveauté. Il s'appelle Beau Rivage et j'aurai le plaisir de le chroniquer à tes côtés, Juliana.
Eh bien, moi également, je vais vous parler d'un livre qui est un énorme coup de cœur. Le précédent l'était déjà, s'appelait Ressac. Et là, je vais vous parler de Digli, qui vient de publier Atteindre l'aube, aux éditions La Ville Brûle, un livre qui raconte une introspection personnelle et familiale. Mmh. Et c'est juste le kiff, quoi. J'ai adoré, je le dévorais, et c'est avec vous également que je vais partager. Nous allons commencer peut-être avec toi quand même, Sandrine.
Avec grand plaisir. Eh bien voilà, j'annonçais le prénom Nina Bouraoui et son nom. Qui est-elle ? Moi, j'ai envie de vous parler d'elle parce qu'elle m'a souvent accompagnée. Je ne saurais plus dire par quel roman j'ai commencé à la rencontrer. Ce que je sais, c'est que ça m'a tout de suite bouleversée. Vous savez, quelquefois, on voit surgir un livre dans sa vie, dans votre vie, et vous sentez tout de suite à quel point... Vous savez que ça ne va pas vous quitter. Moi, ce que j'aime, évidemment, dans cet ouvrage, c'est d'abord le pronom personnel sujet-je. Est-ce que c'est une fiction ? Est-ce que c'est une autofiction ? Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est la vérité de l'écriture, de la sensibilité, de la sensation, de l'intime, et je dirais même de la sensualité. C'est ça que j'aime dans son écriture,
wow,
évidemment.
Chaleur.
Et oui, évidemment, c'est très beau, ça me touche beaucoup. Et puis, évidemment, c'est la thématique, les sujets qui sont abordés. Quels sont-ils ? Tout au long de sa carrière, dans son œuvre, il y a plein de sujets qui sont abordés. Évidemment, le désir. Elle parle aussi du déracinement, puisqu'elle a la double nationalité, elle a vécu en Algérie, elle est arrivée en France, elle a vécu à Rennes. Elle parle aussi dans ses ouvrages du Parc d'Abord. Ça, c'est toujours très touchant quand un auteur, une autrice, nous dévoile quelque chose dans lequel on évolue, évidemment, à Rennes. Alors, lesquels sujets ? Eh bien, l'écriture, elle parle aussi de comment écrire, qu'est-ce que l'écriture, et de l'identité. Évidemment, qu'est-ce que l'identité, le désir, la relation amoureuse. Alors cet ouvrage, Beau Rivage, moi je me suis fait un petit peu surprendre parce que la première de couverture, c'est une image très, très jolie de bord de mer. Et puis en fait, en lisant la quatrième de couverture, de quoi ça parle ? D'un homme qui s'appelle Adrien, qui quitte une femme dont on ne connaît juste la première lettre. Ça commence par un A. Ce A, qui est-il ? On ne le saura pas, mais ce n'est pas encore une fois le plus important. C'est simplement l'histoire d'une rupture. Un homme quitte une femme, ça pourrait être nous. Qu'est-ce que ça dit d'une relation ? Qu'est-ce que ça dit de l'intensité d'une relation amoureuse ? Qu'est-ce que ça dit ensuite de comment surtout se remettre debout ? C'est un ouvrage universel, alors qu'en fait c'est un sujet évidemment intime. Chaque séparation, chaque rupture est différente, bien évidemment. Mais c'est là toute la force de Nina Bouraoui, c'est qu'elle nous saisit, elle nous touche, elle vient nous chercher en profondeur, qu'on soit séparé ou pas, qu'on soit en relation ou pas, qu'on soit célibataire, qu'on soit polyamoureuse, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle vient nous saisir dans ce qu'il y a de plus intime, même si on n'a pas forcément envie de tête dans l'émotion. Elle a cette puissance de toute la délicatesse de son écriture, de venir nous chercher, de nous envelopper, de nous donner beaucoup de plus que du bonheur. Le bonheur a quelque chose, mais de la joie, en tout cas, de nous faire du bien. Et Moi, j'aime bien. Donc voilà les thèmes effectivement récurrents, le déracinement, évidemment. Faut savoir que quand même, elle est née, elle a à peu près nos âges, on va dire, elle est fin des années 60, oui. C'est ça en gros.
Moi, j'ai démarré juste après, hein, en 70, un petit peu plus loin.
Mais, voilà, disons, on n'est pas...
On y est quand même concernés, on ne va quand même voilà. pas se mentir.
Et voilà, elle a vécu en Algérie jusqu'à ses 14 ans, elle est arrivée à Rennes. Elle a connu évidemment... des études de philosophie, de lettres, voilà, quand je dis évidemment des études de lettres, on le sent dans son écriture. Et puis, son premier roman a été publié en 1991 avec La Voyeuse interdite. Et puis après, il y a eu Le bal des Murènes, il y a eu Le jour du séisme, Garçon manqué, Poupée Bella, Nos baisers sont des adieux, Standard, Otage. Et le dernier, Satisfaction, qui est sorti en livre de poche, et je l'ai dans mon sac puisque je suis passée à la librairie, l'acquérir. Comment résumer ce livre ? Voilà, donc Adrien quitte cette femme, dont on connaît juste le prénom, A, et il la quitte évidemment pour une autre femme. Alors A s'interroge, comme nous toutes, nous tous, quand on est quitté, ou en tout cas on peut l'imaginer si on a eu cette chance ou pas, parce que je crois que les ruptures aussi sont des départs et nous permettent quelquefois de nous relever et de quitter des relations et d'aller ailleurs. Voilà. Et donc cette femme, elle va après, évidemment, comme on fait souvent, googliser, vous savez, aller voir qui c'est. On trouve aujourd'hui tous les moyens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas ? J'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat. Mais elle se rend compte que cette femme poste tous les jours sur Insta ou sur Facebook une photo et elle a l'impression qu'elle s'adresse à elle. Et c'est ça que le livre est encore aussi doublement intéressant. Il y a cette rupture, cette séparation. Et vous entendez, je dis déjà le mot réparation. Parce qu'évidemment, ce livre est l'écriture de la réparation, de la consolation. Et rien que pour ça, Nina Bouraoui, je vous aime, je vous le dis. On s'est rencontrés à un festival à Trouville et c'était un moment merveilleux. Je m'en souviens très bien. Donc votre écriture est l'écriture de l'intime, de la consolation, de la réparation. Voilà, qu'est-ce que ça dit, effectivement, quand on se rend compte qu'on est quitté et qu'après, on a encore ce lien. Vous savez, c'est comme quelquefois, on dit, est-ce qu'on bloque quelqu'un sur les réseaux ? Est-ce qu'on bloque pas ? Je parle au sens général, je ne parle pas du tout de moi, ça n'intéresse personne. Mais voilà, le lien, vous savez, ce fameux lien qui rentre presque dans une forme de toxicité, jusqu'où on doit le maintenir pour finalement se remettre debout et soi-même avancer.
Donc c'est quelque chose qui nous plonge dans les entrailles d'une rupture avec toute la profondeur que cela suppose. Lorsque la relation elle a été quand même très significative, est-ce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble ?
Oui, ils ont vécu plusieurs années, je crois 3 ou 4, quelque chose comme ça. Pardon, 8 ans de vie amoureuse. Il était temps que je regarde ma fiche. 8 ans de vie amoureuse. Donc c'est pas rien. C'est ouais. pas rien. Mmh. Exactement.
Ça compte.
Ça compte. Donc elle se remettra, évidemment. Et je crois qu'il est peut-être temps que je fasse ma lecture.
Ah oui.
Alors je pars. Donc l'ouvrage, c'est Beau Rivage de Nina Bouraoui. Et c'est donc là au livre de poche. Et il était paru chez Jean-Claude Lattès, qui est son éditeur. Je ne reçus ni identifié aucun signe annonçant notre rupture. Il m'arrivait d'y penser. L'amour est imprévisible. Il survient quand on ne l'espère plus, disparaît alors qu'on le jugeait acquis. Il est sans prise et sans durée, sinon celle que l'on veut bien lui prêter. Il est cruel, il est souvent question de sacrifice. Je ne crois pas que l'on puisse mourir d'amour, mais sa perte nous éteint et nous devenons sans lui des pierres sèches, grises. Je n'ai jamais douté d'Adrien, doutant plutôt de moi s'il me fallait douter. Je me connaissais. Après 40 ans, les mystères sont en partie résolus. Ma jeunesse fut traversée de failles, détruisant ce que j'entreprenais avec passion, comme si une main maléfique avait disposé du jeu que je pouvais mener. Je dépensais mes forces dans des histoires que j'imaginais grandes, leur prêtant une dimension qui n'existait pas. J'inventais, mentais, car il est ruinant pour l'esprit de ne pas savoir distinguer l'amour véritable de l'attachement. J'attendais un avenir plus clair. On se dit toujours que quelqu'un nous sauvera, alors qu'il serait plus juste de se sauver soi avant de profiter d'un triomphe qui viendrait des autres. J'avais rompu mes chaînes avec l'âge, sachant distinguer les sentiments sans les confondre, prenant l'amour pour ce qu'il est et non comme une réponse à la peur d'être abandonné. Je n'attendais pas qu'Adrien me sauve. Il me semblait être à égalité avec lui. Je ne le possédais pas plus que lui ne me possédait. Nous étions d'un seul bloc, avec nos différences. Je nous surnommais les positifs négatifs en raison de la couleur blonde et brune de nos cheveux comme 2 empreintes photographiques, l'une saturée d'ombre et l'autre de lumière. 8 années s'étaient succédées sans heurts, aussi peu. Nous tenions notre chance, j'aimais assez Adrien pour accepter de tomber avec lui s'il avait dû un jour tomber. Je n'ai jamais pensé qu'il puisse être à l'origine de ma noyade. Nous étions le 14 janvier 2015, une semaine après l'attentat. Paris était noir, non encore lavé de son sang. On devrait fragmenter le malheur selon sa nature, petit, moyen, grand, et le chaos amoureux devrait lui s'incliner devant la mort qui survient. Mais il m'aura fallu vivre sur une île déserte pour ne pas lier les événements extérieurs à mon drame interne, malgré les degrés de gravité et de sa puissance qui les séparaient.
Waouh, puissant!
C'est très puissant, très très fort.
Et ça laisse comme ça, un point suspendu, on a envie de savoir davantage, de rentrer dans le livre et de connaître, peut-être c'est aussi tout le process de cette rupture chez elle.
C'est ça,
qui va
exactement.
Se dévoiler.
Tout à fait.
Allez, un petit disque et puis
oui, avec plaisir.
C'est parti pour une deuxième chronique.
Avec grand plaisir.
Autour de Digli.
His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. 2 shiny bullets, they found his brother dead. You can't see Cain.
Vous êtes sur Canal B. Nous sommes ici dans cette émission très belle, non, Sandrine?
Mais
on
oui,
est
très
d'accord,
belle, j'adore.
Très belle l'émission, le nombril de Vénus.
Et nous sommes très belles aussi.
Voilà, c'est ça, avec quelque chose de très beau. Cette ambiance dans ce studio,
c'est
il y a quelque
ça.
Chose qui se passe.
Exactement,
magnifique.
C'est ça que je voulais dire, quand nous sommes très belles. Ouais. C'est l'environnement,
voilà.
L'image, je ne sais pas, il y a quelque chose, effectivement, j'adore.
Et nos coups de cœur, bien sûr.
Oui.
Autour de ces objets magnifiques qu'on adore, qui s'appellent les livres. Et moi, je veux vous parler de Digli. Bien connu, évidemment, depuis de nombreuses années dans le milieu de la BD. Et aujourd'hui, son deuxième roman, Attendre l'aube, est paru aux éditions La Vie Brûle. Un livre vraiment que j'ai dévoré et que je vous conseille pour votre lecture d'été. Cette jeune Lyonnaise pleine de talents, du haut de ses 35 ans, nous fait vraiment rêver. Et là, tout commence avec la mort de Georgie, la grande tante de l'autrice. Et cette Georgie est un personnage fantasque, libre, du moins c'est ce qu'elle nous laisse percevoir, et qui entretient un mythe de la femme fatale, sans mari, sans enfant. Donc Georgie est un personnage qui a fortement inspiré la jeune Digli, et même pour son travail, tout comme dans sa vie de femme. Mais en souhaitant creuser, apprendre davantage sur cette femme à la personnalité envoûtante, l'autrice nous plonge dans une espèce de travail de recherche parce qu'elle va tenter de rassembler différentes pièces d'un puzzle de sa famille. Mmh. Parce que des femmes incroyables dans sa famille, dans la lignée qui la précède, sont vraiment nombreuses et vraiment avec des histoires romanesques, des histoires délicieuses à découvrir. Franchement, On est là face à une saga avec des femmes qui sont artistes. Et tout ceci, en fait, avec aussi une réflexion de l'autrice par rapport à l'héritage qu'elle a reçu. Elle remonte le passé et découvre donc l'histoire, hein, donc leur relation aux hommes, à l'art, à l'amour, à la beauté, et aussi avec des sujets qui sont beaucoup plus sombres, comme l'inceste, la mort, la violence. Bref, c'est un livre qu'on dévore, qui est écrit de manière dynamique, nerveuse presque, tu vois. L'autrice, elle, la perçoit ce rapport entre elle et ses histoires, sa propre histoire. Et pour faire un petit peu un lien de ce que tu as parlé tout à l'heure dans le livre qui t'a chroniqué, et ben là aussi, il y a un moment où elle dévoile notamment un passage au moment de la mort de cette grande tante. Elle a une relation amoureuse qui est en train de se étioler. Voilà, la rupture est proche. Et c'était aussi une tête blonde avec une tête brune. Bon, je vous laisse deviner si vous tapez Digli. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement parce que déjà, elle a un blog pour son travail d'illustratrice. Digli.com, si je ne m'abuse, je regarde rapidement. Je pense que je l'ai là quelque part. Oui, c'est ça. Digli.com. Son compte Instagram, bien sûr, parce que cette jeune femme pleine de talents, et ben, elle est aussi instagrammeuse, on peut la suivre, donc c'est très agréable. Et je vais vous lire un passage de ce livre, un bref passage qui parle de cette tante.
Très bien.
Habituellement, les gens écrivent sur leur grand-mère, leur mère, leur sœur. Moi, j'écris sur toi, ma grande-tante, la sœur de ma grand-mère. Ce n'est pas commun, mais tu n'étais pas commune. Ce qui nous unissait raconte plusieurs choses. Ton excentricité d'abord et ton lien indéfectible fusionnel à ta petite sœur. Malgré vos 6 ans d'écart, vous étiez presque jumelles. Paula et toi, sur les photos souvent, j'ai du mal à vous dissocier. Même casque brun, même coup de cygne, même visage de lune. Cette proximité sororale a fait de toi un pilier indispensable et charismatique de notre famille. Si tu étais si proche de nous, c'est aussi et surtout parce que tu n'as jamais été mariée. Si tu l'avais été, tu aurais vécu avec ton époux, peut-être eu des enfants, et tu te serais éloignée de nous, la famille de ta sœur. C'est ton choix de vie si atypique, celui de ne pas faire couple, de ne pas faire famille, de ne jamais jouer le jeu de la domestication qui m'a permis de t'approcher aussi près. Ce choix de ne pas t'être oublié dans un foyer. Mais les choses ne sont pas si simples que ça, vois-tu, Sandrine.
Ouais, exactement.
Et la découverte, les découvertes et aussi son rapport personnel avec toute cette histoire qui nous dévoile Digli est absolument saisissant. C'est un livre encourageant pour ceux et celles qui, par moments, peuvent poser le livre comme ça et se dire « Ouais, d'accord, donc j'ai des trucs à découvrir. Peut-être que cette transmission familiale, même peut-être génétique, est quelque chose qui m'habite. » C'est intéressant. Là, on y est.
Absolument.
Sur ces belles paroles, je vous propose d'entendre tout simplement, waouh, une petite musique. Hein,
on peut avec grand plaisir, oui. Partons en musique. White flags covered, white belly, shuffling seats, silent as a lid. Tears spit tide of white jerseys, heads hang low, towels have messy. Sometimes things in the
C'est l'émission Le Nombril de Vénus. Nous sommes ensemble avec Sandrine dans le studio de Canal B. Ça va, Sandrine ?
Oui, ça va très, très bien. Je suis ravie.
Je t'invite à découvrir la chronique qui a été enregistrée avec Blaise.
Oui, allons-y.
Salut Canal B. Je vais vous faire une chronique sur le livre Les Royaumes de Feu. C'est le sixième tome, La Montagne de Jade. Du coup, il y a six tomes. La maison d'édition est Gallimard Jeunesse, l'écrivain Tweet Sutherland et le dessin Mick Holmes. Ça parle d'une dragonnette qui s'appelle Lune Claire, c'est une aile de nuit. Les ailes de nuit, ce sont des clans, comme les ailes de mer, de sable, de pluie, de ciel. Voilà. Elle va rentrer dans une école de dragons et elle va rencontrer plein d'autres dragons, comme King Kaju, qui est une jeune dragonnette, Winter, un dragon de glace, et d'autres dragons. Tout au début va bien se passer, elle va faire la connaissance des profs, de l'école, et puis plus l'histoire se déroule, ça va tourner. Et il va y avoir des meurtres, des tentatives de meurtre. Il y aura deux victimes et il y aura deux tentatives de meurtre par le même dragon. Là, je vous raconte l'histoire du sixième tome, mais il faut savoir que dans le premier, deuxième, troisième, tout ça, eh bien, il y a aussi, par exemple, le premier, il y a beaucoup d'histoires de guerre entre les clans. Cette lune claire, elle a un don que les ailes de nuit avant avaient, mais qu'ils ont perdu, c'est qu'elle peut lire l'avenir, lire dans les pensées, et du coup, elle va en rentrer en contact avec un autre dragon, qui s'appelle Spectral, qui va tenter d'essayer de l'amadouer pour qu'il le délivre. Parce qu'en fait, il est prisonnier dans des pierres. Et il va essayer de... pas forcément amadouer, parce qu'on ne sait pas encore s'il est méchant ou gentil. Sa mère, à Lune Claire, lui a dit de bien garder ses pouvoirs cachés, parce que ses dons avaient disparu depuis des siècles, des lunes, on dit. C'était qu'avec les ailes de nuit qu'il les avait, et tout le monde a mis ses dons dans l'oubli. Plus personne ne savait faire ça. Et elle avait ce don, personne ne savait pourquoi. Elle l'a retrouvé et sa mère est inquiète que les autres dragons la rejettent à cause de ses dons. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, dans ce tome, c'est juste que ça nous dit que vu que les dons avaient disparu depuis longtemps, de les revoir, ça ferait un choc aux autres. L'intérêt de lire Les Royaumes de Feu, c'est que pour ceux qui aiment les histoires de dragons, en voilà. Et qu'il y a beaucoup d'aventures, de récits, et qu'au début des tomes, on n'avait jamais entendu Lune Claire. C'était les dragonnets du destin de la prophétie. Il y avait Argile, Tsunami, Comète et Sunny. C'est eux qui vont être dans l'école, c'est eux les professeurs. C'est-à-dire que Comète va s'occuper des parchemins et de la bibliothèque parce qu'il adore apprendre, il adore les parchemins, donc il voulait travailler dans la bibliothèque. Tsunami, ça va devenir la directrice parce qu'elle aime bien commander. Et des fois, dans les tomes, ça termine bien, c'est-à-dire ils arrivent à faire la paix, mais et des fois, ça termine mal. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un moment de suspension. À la fin des tomes, on se demande toujours la suite. Et c'est pour ça que ça me donne très envie de lire à chaque fois les tomes suivants. Et c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a de la logique. Et en même temps, t'es un peu avec les dragons. Par exemple, dans ce tome, quand tu dois trouver le meurtrier, je vais pas vous dire qui c'est, mais je m'y attendais vraiment pas du tout. Mais genre, vraiment pas. En parlant des qualités des dessins, du coup, c'est Mick Holmes. Je trouve qu'il dessine très bien. De profil, il s'est bien dessiné les personnages, les ailes de dragon notamment, qui ne sont pas si faciles que ça. J'aime beaucoup comment il arrive à nous faire montrer, par exemple, les ailes de pluie, eux aussi, ils peuvent changer de couleur. J'aime beaucoup comment on devine qu'il change de couleur, le dragon, parce que les couleurs sont très vives et des fois, elles sont très sombres. Il joue beaucoup dans les couleurs et surtout, pas que pour ces sortes de dragons, pour même le décor. Et là, par exemple, je suis en train de regarder la couverture, je vois une lune très bien faite avec du blanc sombre, du blanc clair et même la nuit, c'était du noir, enfin du bleu foncé, du bleu clair. Je recommande pour les lecteurs de 10-11 ans parce que il faut aussi comprendre. En fait, quand nous menons l'enquête, par exemple, dans le sixième tome, eh bien, il faut bien tout comprendre, bien tout retenir parce qu'il ne faut pas s'y perdre en fait. Je ne dis pas que c'est le livre le plus compliqué, je dis juste qu'en fait, il faut bien comprendre l'histoire et la suivre. Parce qu'entre les guerres, les meurtres à l'école et tout ça, il faut suivre. Les personnes qui vont lire vont découvrir les personnalités des dragons, leur caractère, comment ils réagissent quand on leur dit des choses méchantes ou gentilles. On va voir aussi des dragons gourmands, des dragons attaquants, des dragons dormeurs. Et surtout, c'est très intéressant dans le sixième tome parce que quand Lune Claire, du coup, grâce à son don, elle peut lire dans les pensées, comme je vous ai dit, c'est très intéressant parce que, en fait, nous lisons toutes les bulles des personnes qui pensent. Et du coup, bah, c'est comme un peu si c'était nous à la place de Lune Claire qui entendait tout ce qu'ils disent. Sauf que, en fait, nous, on lit. Et cela nous donne une sensation d'avoir des super pouvoirs.
C'était chouette, Sandrine.
Ouais, c'était très bien.
La petite Blaise, quoi. Notre émission se termine aujourd'hui. Nous allons venir bientôt vous raconter d'autres coups de cœur de lecture pour cet été. Hein. Il va falloir qu'on fasse peut-être quelques titres en plus, comme ça les gens qui veulent partir à la plage, qu'en penses-tu ?
Oui, avec grand plaisir. On va pouvoir travailler aussi sur des titres à lire sur la plage. Et je pense tout de suite à une nouvelle de Vincent Delerme qui s'appelle « Lire sur la plage ». Voilà, dans Plaisir. Vous savez, cet ouvrage sur la bière, Petit plaisir et grand plaisir minuscule. Pardon, j'ai oublié le titre. Ah,
la première gorgée, non ?
C'était oui, absolument. Mais oui, grazie
mille. Voilà, je vois de quoi tu parles. Je pense qu'on va aller pour une
bière. On est bien connectés.
Ouais, c'est cool. Allez, salut.
Salut.
Écoutez Le Nombril de Vénus en podcast sur canalb.fr.
Bisous, bye.